Alors ils ont enterré. Ils ont enterré Jean-Baptiste. Hérode a dit, ben oui. Et ils ont enterré Jean-Baptiste. Puis après on a transporté le corps de Jean-Baptiste à Damas. Une belle mosquée au-dessus. C'est d'abord une magnifique église, bien sûr, une mosquée. Et voilà, chaque année que le bon Dieu a fait, au jour de la Pâque, c'était à Jérusalem, la Pâque du Seigneur, du tombeau jaillit une lumière qui passe au milieu du minaret, qui est au-dessus du tombeau, et comme un... puis illumine le ciel. Voilà. Vous savez ça. Les musulmans nous en disent, je me rappelle quand on était à la mosquée, vous savez, nous, on croit à la résurrection parce que on peut pas ne pas... On voit la lumière qui en resplendit le jour de la résurrection chaque année. Alors, nous, on croit à la résurrection du Sidney et ça. Il y a beaucoup de choses qui sont attribuées à Jean-Baptiste dans la liturgie. C'est sûr, hein, ça. La visitation, la nativité. Enfin, c'est toute la considération, les paroles de Jésus à son sujet. C'est le précurseur. Mais nous, on doit rajouter ceci aujourd'hui. Parce que je crois que c'est bien d'en faire mémoire, de se le rendre à présent. Pour qu'on soit immunisé contre tout ce qui met des entraves à la grâce de la grande préparation. De la rédemption explicite du monde. Alors, c'est ceci. C'est que dans le temple de Jérusalem, Marie et Joseph se sont mariés en présence du dernier Nachi d'Israël, Siméon Hanachi. Ils se sont mariés. Le mariage se fait en deux étapes. Hein, donc après, la deuxième étape s'est faite à Nazareth, vous le savez. Donc, mais quand ? Quand le mariage s'est fait, c'était dans le temple de Jérusalem, près de la porte dorée, tout ça, bon. Et donc voilà que Marie et Joseph ont été mariés dans le temple, dans Beit HaMikdash. Le mariage entre la sainteté et la tzadaka. Et le kadosh, entre la sainteté et la justice. Hérode craignait Saint-Jean parce qu'il savait qu'il était tzaddik ou kadosh. Il était juste et saint. C'est joli ça. Donc ils se sont mariés là. Ça a duré une semaine, c'était au moment du Rosh Hashanah Rabba. Et, vous le savez, parce que vous l'avez certainement entendu, mais quand la transactation surnaturelle sponsale du mari et Joseph ont fait émaner à l'intérieur de, pendant le travail d'une semaine, toutes les grâces de Dieu qui doivent descendre depuis la fin du septième sceau de l'Apocalypse ouvert dans la gloire de toutes choses, jusqu'à eux, ils ont eu une fécondité. Et on sait très bien quelle est la fécondité, c'est que le père de Jean le Baptiseur, Zacharie, dans le même temple, a été désigné par le sort pour la grande fête, quoi, du Yom Kippour, du du pardon. L'ange Gabriel est apparu. On ne le dira jamais assez, vous savez, que si Jean-Baptiste a été conçu, c'est en raison de la fécondité, la première fécondité dans la conception du mariage de Marie et Joseph dans le temple. L'ange Gabriel est apparu et puis cette goutte de lumière glorieuse est descendue comme ça en lui et puis voilà, il en est. Et du coup, Jean-Baptiste a été conçu. La conception de Jean-Baptiste, hein, il a été conçu. Il a été conçu en raison d'une grâce primordiale, dans une immunité principielle, d'amour principiel, contre la honte de l'humanité tout entière. Et voilà, donc, que le mariage de Marie et Joseph ont eu pour fruit primordial, principiel. Et la conception de Jean-Baptiste, c'est quand même une chose, ça veut dire quelque chose. Jésus le dit, c'est le plus grand des fils de la femme. Et il dit, moi je suis le plus petit, le plus humble, le plus... Mais que Yohanan ben Zacharia soit, a été conçu comme ça, dans le sein de, à partir du mariage. Cette espèce de rencontre, de pénétration par la médiation de l'ange Gabriel, du kadosh, du temple, dans la responsabilité de Marie et Joseph, à l'intérieur du Saint des Saints. Mais, et puis, pfft, ah non, mais ça, c'est rien que ça, ça montre à quel point Jean le baptiseur, Jean et Jésus, quoi, Jésus et Jean, en fait, il y a Jésus, Marie, Joseph et Jean le baptiseur. C'est les quatre fleuves du paradis, de la grâce messianique. Ça veut bien dire quelque chose. Dans les jours où nous sommes, où ceux qui ont la vocation à l'amour de l'avènement du Fils de l'homme, pour inonder tout ce qui scrute les profondeurs intimes du monde incréé de Dieu, et en même temps du monde intime, de la Jérusalem céleste dernière, dans ces jours-ci, ben, il faut faire de cette révélation de la conception de l'innocence crucifiée le principe de notre vie, de nos actes intérieurs et de notre comportement dans la fin. Et il a été, je trouve très, très, très extraordinaire cette révélation. Le Verbe de Dieu, le Père et l'Esprit Saint sont précipités comme ça, à l'intérieur de Marie et Joseph, dans le Kadosh, qui n'aspirait qu'à ce mariage, n'aspirait qu'une seule chose, c'est de trouver toute sa perfection dans le Saint des Saints du Temple, hein, dans le Kadosh HaKadosh. Mais il était juste que ça passe comme ça par cette... donc il n'y a pas que la visitation, sixième mois, il n'y a pas que la nativité de Jean-Baptiste qui a fait frémir toute la Judée de la Grèce, mais il y a la conception aussi. Ça, pour les... nos générations qui sont dans les derniers temps et dans les temps de l'ouverture, hein, de toutes choses au royaume de Dieu, ça a une, c'est une source que Jean-Baptiste soit la première fécondité sponsale de Marie et Joseph de la Sainte Famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit donc se sont précipités à l'intérieur de Marie et Joseph dans leur sponsalité, dans ce qui émanait de leur... à l'intérieur de la paternité de la première personne de la très sainte Trinité, de sa lumière, sa possibilité pour prendre à l'intérieur de l'émanation du Saint-Esprit dans leur unité sponsale, de quoi introduire dans le côté du Père de Jean-Baptiste, dans le Saint des Saints, par la manifestation de l'ange Gabriel, la grâce de la préparation, la grâce de toutes les dispositions, en affinité avec la fin de l'ouverture du septième sceau de l'Apocalypse. C'est quelque chose de Dieu, à titre personnel, a assumé pour que prenne chair cette boule de bénédiction. C'est le principe même de l'innocence. C'est le principe, c'est la création principielle de l'innocence et de l'amour dans la céleste créatrice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est réservé pour la fin des temps dans l'ouverture, l'accès à cette source principielle, sponsale, de l'innocence invincible de l'Église dans la Jérusalem dernière. Est-ce que vous avez compris? Donc le fait que le démon ait voulu martyriser, c'est quand même Jean-Baptiste qui supprimait Jean-Baptiste, faire disparaître Jean-Baptiste. Il est mort sans gloire, parce qu'il est mort à cause du foufou d'une petite dégueulasse. Il a fait le foufou du foufoutin, et voilà. C'est pas très glorieux. Voilà la raison pour laquelle on lui a coupé la tête. Père Emmanuel disait, évidemment, c'est pas très glorieux comme mort. Mais c'est comme ça. C'est à cause de... Hein? C'est à cause de ça. Il n'est pas mort pour... Non, non. Il est mort, Père Manuel disait, il est mort sans gloire. Nous vivons sans gloire. Nous vivons sans gloire. Nous sommes conçus glorieusement, c'est vrai, mais nous vivons et nous mourons dans l'humilité. Voilà, donc Jean-Baptiste, la mort de Jean-Baptiste, le martyr de Saint Jean-Baptiste, c'est dans le dernier jour du mois consacré à la paternité vivante de Dieu. Donc ça a une signification pour nous. Quand je dis signification, ça veut dire que si on pouvait donc voler, puis se précipiter et toucher la conception de Jean-Baptiste avec ces quatre éléments dont nous avons parlé, pour rentrer dans le monde nouveau et l'ouverture des temps, c'est sûrement un très très bon acte de vie contemplative, de consécration au monde nouveau, sûrement. Les samedis saints aussi, en même temps que la lumière jaillissante comme ça, de son tombeau de chaque année, depuis 13 siècles à peu près maintenant. Dans le Saint-Saint de Jérusalem, c'est pas dans le Saint des Saints, mais c'est le véritable Saint des Saints qui est le Saint-Sépulcre. Un jour avant l'heure de la résurrection du Christ, dans le grand sabbat, le feu jaillit du tombeau. Ça, on le sait très bien, le feu a créé. Et les deux, Jean-Baptiste, la lumière, et le feu a créé dans le Saint-Sépulcre. Ça veut dire quelque chose quand même, ça. Que Jean-Baptiste, c'est le précurseur immédiat et méritoire de la résurrection de Jésus et de Joseph. Dans le glaive qui transperce, mais alors de part en part, et glorieusement, la co-rédemption de Marie, le grand sabbat. Tout ça, c'est assumé à l'intérieur de Dieu et redonné sous cette forme. Ah, la Jérusalem nouvelle, hein, Et le feu qui en sort, c'est celui qui pénètre dans la Jérusalem glorieuse. Cette rencontre prodigieuse entre les deux, ce qui se passait à l'intérieur de... Enfin, dans la vie, dans la conception, et puis dans tout ce qui s'est déroulé. Et puis maintenant, dans la lumière, le même glorieux, dans la lumière de gloire de Jean le Baptiste, on doit venir nous visiter, ça, c'est sûr. Et j'aime penser à une chose, c'est que la transfiguration sur le mont Tabor de Jésus avec Moïse et Élie, c'est comme une surabondance qui nous vient de Jean-Baptiste. Je vous laisse, j'ai pas envie de vous expliquer ça, mais... Oui, Marie, elle avait 13 ans quand elle s'est... le jour pour son mariage. Elle avait 13 ans. Et 19 ans après, la 32e année, c'est dans la 32e année, c'est la deuxième année de l'apostolat de Jésus qui a eu la transfiguration. Hein. J'en dis pas plus. D'être, comment dirais-je, capable de faire de sa vie et de ses actes une source de transformation de notre propre vocation sur la terre, c'est sûrement une porte d'entrée à l'intérieur de la glorification, de la gloire glorifiante de Dieu. Et là, c'est ce qu'il dit. Voilà la parole que je trouve qu'il a prononcée et qu'il a dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert, ça d'accord. Mais il a dit, il y a l'époux et l'épousé. Et j'entends la voix des épousailles. Le reste ne m'intéresse pas. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans cette spiration qui se déploie par diffusion et qui aspire toute chose à l'intérieur de la responsabilité agréée de Dieu. Ça, c'est lui. C'est à lui qu'a été donné de tracer ce chemin pour toute l'humanité, toute la création. C'est vrai, il n'y a pas plus grand. La fécondité qui est sortie de Marie et Joseph et qui a permis que cet enfant apparaisse au milieu de la terre, je trouve que ça ne se dit pas assez, moi. Oui, ses disciples, hein, ils disaient, mais enfin, regarde, ils baptisent, ils te... Oh là, moi, il faut que je disparaisse, que lui grandisse, hein, et de toute façon, moi, c'est l'époux, la voix de l'époux, et de l'épousé. Et la voix et la joie des épousailles. C'est extraordinaire qu'il dit ça, voilà, c'est ça. C'est là que je disparais en diminuant. Et oui, bien sûr. Depuis ces gens, le baptiseur. C'est pour ça aussi, c'est ce troisième volet. Hein. On doit baptiser. Hein. On doit baptiser, hein, le baptême de... Il disparaît, hein, bien sûr, mais pour apparaître dans ceux qu'il baptise, hein, pour la grande préparation. Pour nous, ça signifie quelque chose de très très fort, de très puissant. Il faut qu'il y ait la manifestation palpable, visible et invisible de Jean le Baptiseur pour le baptême de l'innocence crucifiée. Et c'est lui aussi qui en est le principe. Donc il y a trois sources principielles en lui. Ça donne le vertige quelquefois, ça. Mais petit à petit, on s'adapte, hein. On rentre en affinité, hein, avec la reine du Sacré-Cœur dans le nouveau, en son principe, en sa source. C'est une des choses qui m'enchante, ça, aussi, que 19 ans après l'ouverture des temps, alors, quand l'Antichrist sera dans le tartare, devant le monde entier, Jean le Baptiste. Caesar reviendra et ressuscitera d'entre les morts. Les justes ressusciteront. Mais en lui, c'est le premier qui ressuscitera, c'est Jean-Baptiste. Hein. Jean le baptiseur, pour entrer, hein, c'est sûr. Hein, parce que même le roi Hérode l'a reconnu. Tzadik ou Kadesh. Le juste et le saint. C'est-à-dire le juste dans sa sainteté. La justice danse dans la sainteté de Dieu. Elle-même, c'est lui. Bah, il ressuscitera, bien sûr. Et emportera dans la résurrection, bien sûr. Bah, tous ceux qu'il aura baptisés. C'est le précurseur du règne des 1000 ans. Il est le principe de la résurrection, hein, dont parle l'épître aux Thessaloniciens et l'Apocalypse. Bon, et bien, quand on fête une fête comme celle-ci, un jour comme celui-ci, c'est le moment de se laisser aspirer à la terre de l'Eucharistie, puisque le Saint-Père en a établi la fécondité mariale, immaculée et eucharistique, pour que cette grâce-là nous pénètre et que on puisse aspirer la venue de cette grâce là dans la terre. Hein? C'est une grâce qui appartient au jour d'aujourd'hui. Si on l'a pas fait cette année, il faudra le faire l'année prochaine, mais il faut que lui et nous, hein, on soit en harmonie dans l'unité. Comme ça, ce ne sera pas seulement tzadik ou kadesh, ce sera tzadik ou kadesh ou erat. Ça tient un peu de choses, vous savez. C'est immédiatement qu'il faut rentrer dans la grâce de l'instant présent. C'est immédiatement. Et c'est là qu'on voit que le péché, qu'on tombe dans des tentations grossières. C'est pas pour nous. L'esprit de ce monde, c'est sûrement pas pour nous. Péché, c'est une splendide horreur épouvantable pour nous. Les enfants du monde nouveau sont aspirés à l'intérieur d'une Jérusalem immaculée, accomplie, resplendissante et triomphante, sans être vue. On y va et...